Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et on va revenir sur cette vague de suicides des policiers neufs depuis le mois de janvier. C'est deux fois la moyenne, si j'ose dire. Fabrice est avec nous, bonjour.
Bonjour Pascal Pro.
Vous êtes policier ?
Effectivement.
Comment vous vivez cette période ?
Période très noire, très difficile, et je pense que les solutions d'adapter des psychologues n'est pas la meilleure des solutions.
Ben, c'est sûr que les psychologues ou le numéro vert, on se dit que c'est pas à la hauteur des problèmes. On va rappeler les titres avec Amandine.
Et on parlait à l'instant des suicides de policiers. Eh bien, on apprend un nouveau drame. Un technicien de la police nationale s'est donné la mort il y a quelques heures, en toute fin de matinée. Il s'est jeté du 7e étage au sein de l'hôtel de police de Rennes, d'après nos informations. Cela porte donc à 10 le nombre de suicides dans les rangs de la police depuis le 1er janvier. Dans l'actualité également, le dernier hommage à Gaspard Ulliel. Le cinéma français a été réuni ce matin à l'église Saint-Eustache à Paris pour les obsèques de l'acteur décédé la semaine dernière après un accident de ski. Il avait 37 ans. Et puis, on vous parle depuis plusieurs jours de ces accusations contre les maisons de retraite du groupe Orpéra. Eh bien, le directeur général du groupe sera bien convoqué dès la semaine prochaine par le gouvernement. Rendez-vous le mardi, le 1er février à 9h15 avec Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge des personnes âgées. Notre météo avec vous, Peggy. Et une bonne nouvelle, les températures remontent un peu.
Oui, mis à part dans le sud-ouest, c'est vrai que c'est mieux. 1 degré cet après-midi à Dijon, vous allez me dire en quoi
oui, c'est
mieux.
Pas grand-chose.
C'est pas grand-chose, mais hier c'était moins 1, donc c'est déjà mieux. 3 à Strasbourg, 4 à Tours ainsi qu'à Bordeaux, 6 à Nantes, 7 à Toulouse, 8 à Paris, hier on avait 4 degrés, 9 à Lille, 11 à Brest, 13 à Tarbes-Nice, 15 à Bastia et 17 à Perpignan. Hier ils avaient 19 degrés à Perpignan, hein. Avec du soleil, un petit avant-goût de printemps. Côté ciel, ça reste bien gris au nord avec en plus une perturbation qui arrive par le nord. Alors elle est très faible, elle donne de faibles pluies entre la Normandie et le nord de la Lorraine. Attention aux brunes verglaçantes possibles en soirée vers les Ardennes et la Lorraine. Et puis la grisaille, elle est assez tenace entre la Bretagne et l'Alsace, même si actuellement là il y a quelques éclaircies sur la Bretagne, mais les nuages arrivent très vite. Et puis ça reste également assez gris le long de la Garonne, mais sur tout le reste de la moitié sud et en montagne, il fait très beau.
Et demain peut-être enfin quelques éclaircies au nord.
Peut-être, on va essayer de positiver, il faudra juste attendre parce que ce sera pour l'après-midi. Le matin, ce sera encore bien gris avec du brouillard quasiment partout. Des pluies verglaçantes entre le nord-est et l'Auvergne. Le soleil sera essentiellement en montagne entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. Et dans l'après-midi, on peut espérer quelques trouées sur le nord-ouest essentiellement.
Attention à ce que vous dites. Hein.
J'ai bien dit, on peut espérer. Hein. Quelques trouées. Il restera quelques plaques de grisaille sur le nord-est et également dans la vallée de la Saône. Mais sinon, sur la moitié sud et en montagne, encore du soleil, évidemment. Côté température, il restera aussi dégelé, surtout sur le centre-est. Elles seront moins marquées dans le sud-ouest. Et les maximales vont se radoucir un petit peu au nord, de 4 à 10 degrés jusqu'à 17, encore près de la Méditerranée.
Merci beaucoup, Peggy.
Merci, Amandine. Merci, Peggy. Amandine, on n'a pas Michel Sardou aujourd'hui. On est
Non, pas tous les jours, mais c'est pas tous les jours Michel Sardou non plus.
Pour elle l'appeler à 13h02 tous les jours,
je pense que ça peut l'agacer.
Ah non, moi, non bah oui, mais nous ça ne nous agacerait pas. Merci aussi à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Et nous continuons donc et nous commençons même cette émission des auditeurs avec ce sujet dramatique, les suicides dans la police.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On est donc avec Fabrice qui est policier en Savoie. Vous avez écouté Grégory Geron qui est secrétaire général tout à l'heure du syndicat Unité SGP Police dans notre émission, Fabrice ?
Effectivement, et je partage totalement son avis sur le manque de soutien et la non-écoute des fonctionnaires. Vous savez, Pascal Pro, c'est très difficile. C'est un sujet très délicat chez nous. Et je pense que M. Darmanin, je l'ai déjà apprécié sur votre antenne, qui fait preuve de bonnes choses, de bonnes intentions. Mais là, il annonce 20 psychologues en zone difficile. Vous croyez que franchir le cap des psychologues, ça va servir l'intérêt d'un collègue qui est en totale détresse ? Vous savez, rien n'est anonyme chez nous. Donc aucun collègue ne décrochera son téléphone pour aller se livrer. Vous savez, même notre hiérarchie se renseigne sur un problème légal d'un genou pour savoir pourquoi vous n'êtes pas présent. Ils osent forcer le passage. Donc vous savez, la hiérarchie est... Une minorité de la hiérarchie est coupable aussi de voir nos collègues qui passent l'arme à gauche. il y a un manque d'écoute total. Donc ce n'est pas les psychologues qui vont rétablir les choses. Vous savez, quand vous faites un burn-out, je suis bien placé pour le dire parce que je l'ai eu à l'occasion dans ma carrière. Vous n'avez aucune écoute. Vous avez un service médical sur lequel on vous dit « Monsieur, ça va aller » ou alors on vous pénalise financièrement. Tout simplement, on vous met à disponibilité. C'est totalement honteux. Vous savez, quand vous voyez aussi vos collègues qui souffrent et qu'on vous dit, la hiérarchie vous dit, mais vos collègues auraient dû s'en apercevoir, ils auraient dû nous remonter l'information. Vous croyez qu'un collègue qui vous connaît, qui sent votre mal-être, va aller témoigner auprès de la hiérarchie? C'est à double tranchant, parce que vous pouvez peut-être en vouloir à votre collègue d'avoir dénoncé la chose parce que vous ne pouvez pas en parler à la hiérarchie. Vous savez, j'ai vécu dans mon propre commissariat que je ne citerai pas, deux suicides par balle, par arme de service. Un en montagne et une à domicile. C'est terrible. C'est terrible de vivre ça.
Mais Cédric, ce qui est tout à fait fascinant lorsqu'on écoute les policiers, c'est que vous ne demandez pas de l'argent, vous ne demandez pas pourquoi pas plus de moyens, vous
pas
demandez simplement, j'ai envie de dire,
soutien.
De l'humain. De l'humain.
Un soutien.
Voilà.
Une écoute.
Mais ce que je ne saisis pas, c'est que cette écoute, ce que vous appelez cette écoute, qui doit, entre guillemets, vous écouter dans un commissariat? C'est celui qui dirige le commissariat, en l'occurrence le commissaire, les gradés, c'est la société qui doit davantage vous écouter, c'est le ministère qui doit vous écouter, parce que ça passe forcément par quelque chose d'humain et donc par des personnes.
Si vous me permettez, Pascal Praud, je vais vous donner cette anecdote. Moi, quand j'ai repris mon service, on m'a dit « Vous avez 3 stages obligatoires sur les violences conjugales et sur le suicide. » Et vous le faites en ligne. Pendant 2 heures, vous répondez à un QCM en ligne, derrière votre ordinateur. Et la seule phrase que j'ai retenue de ce stage, à part d'avoir un petit diplôme comme quoi vous avez fait votre stage, c'est simplement qu'un policier ne souhaite pas mourir.
Oui, mais vous avez
veut arrêter de souffrir.
J'ai entendu, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qui doit vous écouter selon vous?
La hiérarchie qui est sur un piédestal et qui ne voit que par ses
avancements. C'est quoi la hiérarchie? C'est qui la hiérarchie?
La hiérarchie, c'est celui qui dirige votre service.
Tous les gens qui dirigent les services dans les commissariats n'écoutent pas les gens avec qui ils travaillent.
Non,
ou les écoutent mal.
Voilà, on vous dit toujours notre porte est ouverte, mais quand vous leur signalez les faits et que vous soyez en détresse, parce que c'est déjà pas évident de parler d'une certaine détresse.
J'entends bien, Fabrice, mais ces gens qui sont dans la hiérarchie, un jour ils ont été à votre place. C'est comme dans toutes les sociétés. Un jour, pourquoi vous dites ça dément?
Je ne sais pas si vraiment ils ont été à notre place. Vous savez, le mal qu'un policier peut vivre n'est pas forcément vécu par un membre de votre hiérarchie. Vous êtes robotisé.
Quand ils étaient à votre place, ils avaient votre fonction. C'est-à-dire que j'imagine qu'à 25 ans, tu rentres...
Pas forcément. Ils sont passés directement par les concours de lieutenant et commissaire. Donc ils ont pas été, ça n'a pas été des mecs de terrain qui ont vécu
alors,
ce que
c'est
nous,
ça
on a vécu.
Que j'essaye de comprendre. Donc il y a une forme d'opposition, j'allais dire, de lutte des classes à l'intérieur de la police.
Voilà, exactement.
D'accord.
Tout à fait.
Alors j'essaye de comprendre. Donc c'est ça. C'est-à-dire que les gens de terrain ne sont pas les mêmes que ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent ne sont jamais passés par le terrain.
Il y a pas tous, mais il y a des membres de la hiérarchie qui ne sont jamais passés par le terrain.
Erreur. C'est comme si un présentateur de télévision ou de radio n'avait jamais fait de reportage. C'est
exactement
pareil.
Pascal Bon.
Il est 13h09. Il est 13h09, donc il ne pourrait pas savoir la difficulté d'un reporter sur le terrain. Et il serait en difficulté pour parler avec lui. 13h09, à tout de suite. Restez avec nous, Fabrice.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, que je salue.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous l'avez dit, c'est un constat terrible. Depuis le début de l'année, 10 policiers ont mis fin à leur jour. On a appris il y a quelques minutes qu'un technicien de la police nationale s'était donné la mort en fin de matinée à Rennes. Il s'est jeté du 7e étage au sein de l'hôtel de police. Comment en est-on arrivé là? Comment freiner cette hécatombe? Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, était l'invité de RTL Midi.
On a une réelle difficulté de prise en compte de la parole dans la police nationale. Globalement, on n'a pas de culture de prévention, on n'a pas de culture du débriefing et on manque surtout de soutien, que ce soit médical, psychologique. 70 médecins de prévention pour 150 000 agents et une centaine de psychologues pour 150 000 agents actifs. Hein, et je ne compte pas évidemment nos collègues personnels administratifs, techniques et scientifiques. Donc on est sous-dimensionné pour faire face à ça.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier le recrutement d'une vingtaine de psychologues dans les endroits les plus difficiles. Est-ce suffisant ? Vous êtes policier comme Fabrice avec nous au 3210. Racontez-nous votre quotidien.
Il est 13h13, Fabrice est là et je propose qu'on écoute également Cédric, puisque Cédric est policier, il habite Paris, bonjour. Et il écoutait Fabrice. Cédric, on peut savoir d'ailleurs à quel niveau de la police vous êtes, ou est-ce que vous préférez que tout ça là reste anonyme ?
Non, je suis brigadier chef de police. Bon, donc je suis dans la zone intermédiaire, dans la strate intermédiaire entre la hiérarchie et le gardien de la paix qui rentre de l'école.
Bon, et Fabrice, d'ailleurs, je ne vous avais pas posé la question tout à l'heure. Vous êtes à quel niveau dans la police, si j'ose dire ? Fabrice ?
25 ans de police.
25, vous avez 25 ans de police. Bon, on n'en saura pas davantage. Bon, Cédric, vous avez écouté le témoignage de Fabrice. Est-ce que vous partagez son analyse ?
Pas vraiment. Non, pas vraiment.
Et je rappelle que vous êtes policier. Hein. Pourquoi ?
Moi, j'ai 36 ans de police derrière moi. Ce problème hiérarchique, lui, il existe, effectivement, ils n'ont pas été sur le terrain, mais ça, c'est pas le problème. Que M. Darmanin veuille prendre des psychologues et tout ça, c'est bien. Mais le problème, il vient de la source. Là, on recrute à tout va des gens qui ne sont pas prêts psychologiquement, physiquement, intellectuellement à rentrer dans la police. On a enlevé des barrières, on a enlevé des critères, soi-disant pour l'égalité homme-femme et tout ça, je respecte, hein, mais on a tellement envie de choses qu'on a des gens il y a des collègues, des jeunes qui ne savent à peine écrire le français, à peine lire le français. On n'arrive pas, on les comprend pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils vont être libérés à la sortie d'une école de police, ils vont être en banlieue, ils vont être perdus. Des problèmes physiques.
Alors j'entends bien,
problèmes...
mais ça, est-ce que c'est lié à la vague de suicides ? Que
bien sûr,
j'entends ça en permanence, que le niveau des policiers recrutés est faible. J'entends ça
bien
en permanence.
Sûr que,
voilà.
Bien sûr.
Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas ce qu'en pense d'ailleurs Fabrice, mais c'est.
Monsieur Pro, tout est lié. Ensuite, le problème des suicides dans la police, le jeune technicien qui vient de se suicider, je ne sais pas son âge. Moi, je peux vous dire, j'ai eu le cas dans mon service il y a 3 semaines. Un collègue à moi, un copain à moi de 50 ans. Le vendredi, j'ai discuté avec lui. Le dimanche, il s'est mis une balle dans la tête. Rien ne pouvait présager qu'il pouvait passer à cet acte. Maintenant, le problème du suicide dans la police, il est inhérent à notre profession. Mais ce n'est pas en multipliant les psychologues que ça ira mieux. Il y a plein de choses à faire, mais c'est encore...
Non, mais là, vous rejoignez exactement Fabrice. C'est ce que disait Fabrice tout à l'heure.
Non. Ce n'est pas qu'un problème de hiérarchie, M. Pro. C'est aussi un problème humain.
Non, mais c'est ce que disait Fabrice. Il disait il n'y a pas d'écoute.
Non, l'écoute, on l'a. Il faut arrêter. Moi, j'ai fait les tests qu'il a parlé par Internet et tout ça. Je les ai fait aussi. Et non, ce n'est pas qu'un problème de hiérarchie, c'est un problème d'écoute entre nous. Mais il n'y a plus cette osmose qu'il y avait dans la police. Les horizons sont tellement différents maintenant que tout le monde reste dans son coin. On n'a plus tout ça.
Bon, bah écoutez, manifestement, Cédric et Fabrice, je ne sais pas si Fabrice veut ajouter un mot, mais il y a une analyse qui diffère. Alors, je ne sais pas si c'est sur le fond ou à la marge, je n'arrive pas tout à fait à l'analyser, mais vous ne dites pas exactement quand même la même chose, Fabrice. C'est ça que je peux remarquer.
Non, exactement, Pascal Pro. Moi, je pense que le collègue a raison sur certains points. Maintenant, de dire qu'on a écoute hiérarchique, je pense que peut-être le collègue, il faudrait aussi peut-être qu'il dise qu'il est syndiqué ou délégué syndical pour défendre l'administration. Et l'administration n'est pas défendable sur le taux du suicide. Je suis désolé, c'est nos collègues qui passent l'arme à gauche. C'est pas une évidence de se dire que des familles sont endeuillées. Moi, je suis désolé, je peux pas entendre un tel discours de la part d'un collègue.
Bon, vous n'êtes pas syndiqué, Cédric ?
Fabrice, je ne suis pas syndiqué du tout, bien au contraire. Et pour lui donner juste une indication, je suis passé en conseil de discipline justement pour un problème hiérarchique il n'y a pas longtemps. Donc je ne fais en aucun cas l'apologie de ma hiérarchie, bien au contraire.
Bon, en tout cas, je ne voudrais pas qu'à l'antenne vous mettiez en opposition parce que c'est il y a un moment d'union quand même que réclame la police. Et n'entrons pas dans des querelles vaines. Merci en tout cas Cédric et Fabrice de ces deux premiers témoignages. Il est 13h17, je salue monsieur Boubouk.
Bonjour Pascal et bonjour à tous.
Vous avez rêvé un jour d'être policier
Oh oui, j'ai rêvé d'être pompier surtout Pascal. Pompier, ça me disait bien, éteindre le feu.
Ça, quand vous aviez 3 ans, 4 ans
Oui, c'est ça, après je me suis vite rendu compte que je pourrais pas.
Et puis après vous avez regardé peut-être des films, vous avez vu des grands policiers à la télévision, au cinéma. Quels sont les policiers qui vous ont fait rêver?
Les policiers qui m'ont fait rêver Pascal, les séries policières, attendez je réfléchis.
Ça peut être Columbo.
Ah oui, Columbo, j'ai regardé.
Parfois dans...
Et Navarro aussi.
Navarro, j'écoute.
Je voulais être inspecteur.
Eh bien, bien sûr. Et finalement, vous êtes au-delà de tout ça, puisque vous êtes devenu journaliste.
Ah bah oui, pas encore. Hein. J'enquête sur Facebook pour l'instant.
Ah bon, vous en... bon.
Allez, bon, sur nos réseaux sociaux.
Sur Facebook.
Alain nous écrit, au lieu de recruter des psychologues, ça serait plus efficace de condamner un maximum les actes anti-police. Marie-Paul, dans le même sens, nous dit, quand les policiers pourront exercer leur métier correctement, il y aura moins de suicides. Et Evelyne, pour finir, recruter des psychologues, ça me paraît être une vraie aide pour ce corps de métier qui en a tant besoin.
Bon, on va parler de ce sujet grave et puis, vous le savez, on aime aussi aborder des sujets un peu plus légers. Quoique, Disney prépare un remake de Blanche-Neige et les Sept Nains. Mais ce n'est pas politiquement correct. Ce n'est pas politiquement correct de faire un tel remake. Et notamment les nains imaginent que c'est assez discriminant d'être montré autour de Blanche-Neige. Donc, le remake, il n'y aura plus les nains, mais il y aura des personnages magiques, nous rapporte Disney. Donc, que pensez-vous de cela? Excite donc les nains. Est-ce que vous pouvez citer tous les nains de Blanche-Neige et les Sept Nains? Dormeur, Grincheux.
Ah oui, Grincheux, oui.
Simplet. Prof.
Pourquoi vous me regardez quand vous dites Simplet? Vous avez insisté votre
prof.
Regard.
Étonnant.
Hein, qu'avez-vous dit?
Rêveur.
Ah non, il n'y a pas Rêveur. Il n'y a pas un nain qui s'appelle Rêveur. Atchoum, oui, mais il n'y a pas Rêveur. Non, mais...
Il y avait Atchoum, oui.
Mais oui, il y avait Atchoum. Bon, ouais. Et donc ça, c'est un sujet qui nous amuse,
mais
évidemment.
Mais il en manque, Pascal.
Ah ben oui, mais j'ai dit Dormeur, Grincheux, Rêveur. Non, mais Atchoum, Simplet, il y en a sept, hein, par définition.
Ah non, c'est Dormeur, plutôt.
Dormeur, bien c'est sûr, ça, vous avez complètement raison, Dormeur. Et on va les retrouver, les noms des sept nains. Et donc ça peut vous faire réagir, bien évidemment, parce que c'est un sujet comme ça, société, qui nous amuse. Et puis le 27 janvier 83, Louis de Funès nous quittait. L'année prochaine, ça fera 40 ans, donc cette année, ça fait 39. Les salaires sont-ils trop bas en France? Appelez-nous au 3210, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Comme Blanche-Neige dans la forêt, j'ai rencontré les sept nains qui s'en allaient travailler en sifflant sur le chemin. Et si vous ne me croyez pas, vous avez tort, car les voilà des sept nains le plus endormis, sept dormeurs qui ne pensent qu'à son lit. Des sept nains le plus enrhumés, c'est Hatchoum qui ne fait qu'éternuer. Et celui que vous allez voir, c'est Grincheux qui voit tout en noir. Le suivant qui est très heureux, c'est Joyeux qui voit tout en bleu. Des sept nains, celui qui n'ose pas, c'est Timide qui se tordit les doigts.
Donc vous avez compris, prof, Timide, Hatchoum, Joyeux, Simplet, Dormeur et Grincheux.
Oui, pas Rêveur quand même.
Rêveur. Non, il réinvente le nom des sept nains, ça, pas du tout ça.
C'est un concept.
Hein? Allez, un autre... Et comment elle s'appelait la sorcière? La reine. Voilà, la reine.
La reine, tout simplement, oui.
Oui, elle s'appelait la reine.
Je ne vais pas chercher bien loin.
Exactement.
Un autre sujet qui a pour vous faire réagir dans quelques instants. Faut-il faire payer les soins aux personnes non vaccinées? Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, s'est interrogé sur la question. Écoutez ses propos sur France 5.
Quand une prévention, un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile, y renoncer? Est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences? Ou est-ce que effectivement on allie le fait qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences, alors qu'il va y avoir des conséquences sur les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien? Je trouve que le débat est délicat.
Mais qu'en pensez-vous? Faut-il faire payer les soins aux personnes non vaccinées? Vous avez la parole, au 32.
Je trouve ça absolument incroyable, la séquence que nous vivons désormais. Quelqu'un qui roule à 180 à l'heure et qui a eu un accident de voiture, donc qui est en dehors, évidemment, des règles. On ne le soigne pas, non pas élu, on lui fait payer. Je rappelle qu'être non vacciné, la vaccination n'est pas obligatoire en France. Si vous êtes non vacciné, vous n'êtes pas un délinquant, c'est votre choix. Donc, a priori, vous devez avoir pour le moins les mêmes droits que les autres. Si la vaccination était obligatoire, je ne le dirais pas de la même manière. Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes commercial, vous habitez Nancy. Je crois que vous n'êtes pas exactement sur ma ligne.
Si, je suis sur votre ligne.
Ah bon?
Oui.
Je croyais que vous ne vouliez pas soigner.
Non, je croyais que vous parliez de ligne, je croyais de la ligne téléphonique. Moi,
oui. Non, j'ai l'impression que vous êtes assez rude sur les non-vaccinés.
Ah ben complètement, mais je suis déjà passé sur votre antenne et je vais répéter encore ce que j'ai dit. Je ne comprends pas qu'on fasse pas un 49-3 là-dessus. Je ne comprends pas qu'on soigne les non-vaccinés qui mobilisent les soignants qui sont sur les rotules. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui les non-vaccinés. Excusez-moi, mais moi ils me prennent la tête, quoi. Donc voilà, quoi.
Mais Olivier, d'abord je peux comprendre ça à titre personnel, mais faut bien qu'on vive quand même avec des règles tous ensemble.
Oui, ben.
Ce ne sont pas 42. Des délinquants, ils ne sont pas en dehors de la loi.
Non, c'est sûr.
Si vous êtes sûr, vous ne pouvez pas demander que des gens qui ne sont pas hors de la loi ne bénéficient pas des mêmes droits que vous. Alors notre société, elle explose. D'accord. En revanche, vous avez le droit de dire, moi je veux une vaccination obligatoire. Ça peut s'entendre.
Oui. Alors moi, ce que je souhaiterais aussi vous dire, c'est que aujourd'hui, peut-être plus 10 cas sur 10, mais au moins 8 cas sur 10 aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas vaccinés, qui arrivent en réanimation et qui font que les soignants sont sur les rotules, quoi, à cause de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Quoi.
J'entends ce que vous dites. Ça peut s'entendre. Bien sûr que vous avez cette analyse que vous portez est peut-être et même sans doute juste. Mais pardonnez-moi, c'est pas le problème.
D'accord. Bon, ok. En tout cas, ça...
c'est pas le problème puisque je répète, c'est la liberté de chacun.
D'accord.
Mais parce qu'autrement, je donnais l'exemple tout à l'heure de ceux qui... si on met le doigt là-dedans, je donnais l'exemple de la personne qui roule à 180 à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? La personne qui fume depuis 30 ans, qu'est-ce que vous dites? Vous lui dites aussi qu'elle prend la place ou le lit de quelqu'un si elle a un cancer, alors qu'on lui avait dit que fumer pouvait... être cancérigène?
Alors, vous levez encore un sujet auquel là, je vais rebondir tout de suite. Alors, justement, les gens, parce que j'en ai entendu des bêtises, pour pas dire un autre mot, sur les gens qui disent « Oui, mais le vaccin, on sait pas ce qu'il y a dedans, etc. etc. » La cigarette, on sait pas ce qu'il y a dedans? La cigarette, on sait pas combien ça fait de morts par an?
Si. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui fument? On les interdit de fumer parce qu'un jour, ils peuvent avoir un cancer?
Non. Mais
c'est des raisonnements analogues. On peut considérer que celui qui fume pendant 30 ans va mettre en péril le système de santé et que s'il a un cancer, on ne le soigne pas parce qu'on l'avait prévenu que c'était dangereux.
Alors, ok, mais là aujourd'hui, on parle du Covid, d'accord? On parle de ce virus.
Vous êtes habile.
Pardon?
Je dis vous êtes habile, Olivier.
Non, mais on parle de
vous
ce virus.
Vous êtes un commercial, vous êtes... malin.
J'essaye. Donc voilà quoi.
Non, mais moi ça me fait peur cette société de temps en temps. Je trouve qu'il y a des règles de droit et hélas faut appliquer les règles de droit. Autrement, je vois pas comment c'est possible que la société tienne, mais peut-être me trompe.
Je voudrais juste vous dire une dernière chose avant que vous me coupiez le
Ah non,
le
restez au contraire. Moi j'aime bien parler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi.
D'accord. Ok. Vous m'entendez là?
Oui.
Oui, il y a aussi une chose que je voudrais vous dire quand même, parce que on parle de la réanimation aujourd'hui par rapport aux gens du Covid. Il y a aussi encore une chose qui va pas dans ce pays, quoi. Dans ce pays, au niveau des soignants, et je sais de quoi je parle, mon épouse est soignante, on travaille avec des gens aujourd'hui sur toute une équipe, mais par contre, ce gouvernement dit on met une prime aux infirmiers en réanimation, aux infirmières, mais par contre, tout ce qui est personnel à côté, on met pas de prime. Alors je peux vous dire une chose, c'est... Alors c'est peut-être hors sujet, mais c'est une chose que je voulais soulever sur votre antenne.
Bah écoutez, merci et de ce témoignage. Et puis vous allez de toute façon pouvoir rester avec nous après la pause. Il est 13h28.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
13h31, nous sommes toujours avec Laurent.
Nous attendons vos appels au 3210 sur cette question. L'histoire de Blanche-Neige et les sept nains est-elle rétrograde ?
Un jour, mon prince viendra.
Peter Dinklage, qui a joué dans la série Game of Thrones et atteint de nanisme, avait dénoncé la représentation arriérée des nains dans le prochain film remake du dessin animé. Par exemple, souvenez-vous de la rencontre entre Blanche-Neige et Hatchoum, Grincheux, Prof et compagnie.
Mais vous êtes de petits hommes. Enchantés, messieurs. J'ai dit enchantés, messieurs.
Enchantés de quoi ?
Oh, vous parlez. Quel bonheur.
Disney a répondu, exit les nains traditionnels dans ce remake à l'écran, place désormais à des créatures magiques. En fait-on trop ? Est-on vraiment en train de stigmatiser des personnes ? Qui en veut vraiment aux sept nains ? Nous vous attendons dès maintenant au standard.
Non mais c'est vraiment des sujets extrêmement délicats. D'ailleurs, ça serait intéressant d'entendre l'avis d'une personne de petite taille. Puisque c'est vrai que le mot nain, est, à juste titre d'ailleurs, est moins employé aujourd'hui, une personne de petite taille. Et vraiment, ce serait, c'est d'ailleurs des sujets très délicats, mais comment lui-même vit-il ce type de film qu'il connaît depuis toujours ? Comment l'enfant qu'il était a-t-il grandi avec ce type de film ? Comment les uns et les autres pouvaient se comporter avec lui à travers précisément la vision de ce type de film ? Ben ça m'intéresse si une personne de petite taille nous appelle et qu'elle veut témoigner, parce que c'est pas forcément facile de prendre le micro sur ces sujets. Eh bien, nous l'attendons avec plaisir au 3210. Olivier, qui est assez rude donc avec les non-vaccinés, il ne faut pas les soigner. Merci Olivier de votre témoignage.
Je vous en prie.
Et bonne journée du côté de Nancy. À Nancy, il ne doit pas faire plus chaud qu'à Paris, hein, je pense.
Ah ben Nancy, il y a deux saisons à Nancy, l'hiver et le 15 juillet ou l'hiver et le 15 août.
Non, vous donc, êtes dur, franchement. Attendez, il fait très chaud l'été à Nancy, vous rigolez.
Oui, non, mais...
C'est très continental, Nancy et Metz, l'été.
Oui, enfin, Nancy, si vous voulez, c'est pas une région, c'est une punition. Hein, donc,
mais c'est horrible, odieux de dire ça. Moi, j'adorais aller à Nancy et à Metz.
Ben écoutez, je vous laisse ma place, Pascal, quand vous voulez.
Mais vous êtes de quelle région d'origine ?
Moi, je suis de Charente-Maritime, moi. Donc, voilà, c'est.
Bah, alors, ça, vous. Et vous aimez pas. Alors, pourquoi vous êtes à Nancy ?
Ah, ben je sais pas. Je me pose des questions. Mais bon.
Parce que par amour, peut-être.
C'est ça. C'est complètement ça. Donc, voilà.
Non, mais vous avez suivi votre femme qui était nancyenne ?
Non, j'ai rencontré ma femme à Nancy, donc voilà, c'est...
Et ça fait combien de temps que vous vivez à Nancy ?
Oh, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, mais...
Bon, et vous êtes toujours avec votre femme ?
Ah bah toujours, oui. Donc, bon.
Mais vous n'avez pas réussi à la persuader de venir en Charente-Maritime ?
Pas encore, non.
Mais c'est vrai que c'est sympa la Charente-Maritime aussi, mais cette ville de Nancy, donc vous êtes un peu malheureux à Nancy ?
Ah bah pas qu'un peu, oui. Sur le climat, sur l'environnement, c'est pas le top, quoi.
À l'environnement aussi. Mais c'est une
belle...
Ça, c'est drôle.
La mentalité, c'est quand même assez particulier.
Bon, bah voilà. Écoutez, j'espère qu'il y a des Nancyens qui nous écoutent et puis qui vont pas être fâchés, puis surtout qu'ils vont nous appeler pour rectifier le tir. Merci en tout cas, Olivier, de ce témoignage. Dimitri Ramelot, notre ami de Nancy et de Metz, qui nous écoute, je suis sûr qu'il est pas d'accord avec vous. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller dans ces deux villes. Joël.
Bonjour Pascal.
Joël qui habite dans l'Oise, qui est infirmier sur ce même sujet. Est-ce qu'il faut soigner gratuitement les non vaccinés ?
Alors, écoutez, les soignants en ont ras-le-bol, effectivement, de ces gens qui sont non vaccinés, qui poussent le problème un peu plus loin qu'il n'est déjà. Toutefois, on a passé un diplôme, on a des convictions et je ne me vois pas soigner quelqu'un. Faire payer quelqu'un pour des soins, on le fait déjà pas sur des gens qui n'ont pas les moyens. Je vois pas pourquoi on ferait une différence sur ces personnes-là. Qu'il y ait une obligation et qu'on arrive à forcer, voire qu'on fasse une loi pour pouvoir obliger le vaccin, oui. Maintenant que ça soit un moyen pécunier, c'est pas la bonne méthode. Ça va surtout toucher les gens qui ne sont pas dans les moyens et forcément ça va poser problème. Je ne me vois pas, avec mon diplôme, ne pas soigner des gens pour une raison Ben non, pour une raison d'argent.
Ben, j'entends ce que vous dites et vous différez un peu d'Olivier et pourquoi pas d'ailleurs, parce que vous êtes infirmier, alors vous en avez assez, mais c'est ce que je disais à Olivier. Quelle serait l'autre solution, Joël ?
Alors, si on ne peut pas passer par une loi à obliger les gens, parce que c'est un jeu de dupes, hein, à force d'obliger dans telle et telle profession, dans tel et tel milieu, c'est vraiment un jeu de dupes, il faut, à mon avis, passer par une loi. Je pense qu'on a oublié, il y a quelques années, le vaccin de l'hépatite B, qui provoquait chez certains un développement de la sclérose en plaques. Chez tous les gens qui sont dans les soins, maintenant, c'est une obligation, et on n'en parle plus du tout. Au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de tergiverser, statuer dessus, prendre une position claire et définitive.
Alors, ce qu'il faut espérer, Joël, c'est que déjà ce sujet soit derrière nous, que Omicron ait d'une certaine manière conclu cette épidémie et cette pandémie, et que de vaccins, on n'en ait plus besoin dans les prochains mois. Je dis cela, j'adorerais que ce scénario soit exact. Il n'est pas avéré aujourd'hui, mais c'est une possibilité.
Ça serait bien, on aimerait tous, hein, soignants ou non soignants, on aimerait tous que ça s'arrête. Mais en attendant, si ce n'est pas le cas, il faudrait envisager autre chose. Mais pas le côté pécunier, ce n'est pas la bonne manière. Il faut arrêter de taper au portefeuille des gens en pensant que c'est comme ça que les gens vont se contraindre à faire quelque chose.
Merci beaucoup Joël de ce témoignage. On va changer de sujet, on va parler des salaires qui sont peut-être trop bas aujourd'hui en France. C'est un sujet ça aussi récurrent. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Des manifestations sont prévues dans tout le pays aujourd'hui pour réclamer des hausses de salaire. Justement, sont-ils trop bas en France ? Oui, pour Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris et ancienne garde des Sceaux.
L'urgence du moment, c'est de mettre sur la table, de dire que les salaires sont trop bas, et notamment pour les travailleurs les moins qualifiés. Regardez, le pays, il a tenu sur quoi pendant le Covid ?
Il a tenu, vous dites aux entreprises, il faut augmenter les salaires.
Bien sûr, bon, vous savez, ils en sont très conscients. Très conscients. Enfin, vous savez, on a peut-être un chômage qui baisse, mais on a de plus en plus de tensions dans les entreprises sur les sujets des salaires, c'est une réalité.
Rachida Dati, invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Ce sujet doit-il être la priorité de la présidentielle ? Nous attendons vos appels dès maintenant au standard.
Nous sommes avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Pascal. Ravi de vous avoir au téléphone.
Merci à vous. Vous êtes gérant ?
Exactement. Je suis patron d'une petite entreprise de 2 salariés dans la région lilloise.
Alors, est-ce que les salaires que vous accordez sont trop bas ?
Oui, ils sont trop bas, effectivement. Moi, aujourd'hui, donc j'ai 2 salariés qui sont 2 ouvriers paysagistes. C'est leur salaire oscille avec les paniers repas entre 1300 et 1500 euros net par mois. Aujourd'hui, avec le prix du carburant qui augmente, les impôts, la baisse du pouvoir d'achat, aujourd'hui, mes ouvriers, avec le salaire qu'ils ont, ont du mal à joindre les deux bouts, ce que je peux comprendre totalement. Et moi, je demanderais pas mieux de pouvoir les payer plus si j'avais moins de charges à payer sur les salaires.
C'est-à-dire que quand vous payez un salaire 1300 euros, c'est brut ou net pour ces paysagistes ?
C'est net. Net.
Donc leur salaire brut est de combien ? 1500 ?
1600 ? Non, il est à 1650.
Donc 1650 brut. Donc ça, c'est le salaire brut que vous payez. Ça vous coûte combien à vous ? Vous avez 50% de charges là-dessus ?
C'est ça, à peu près. Donc, exactement.
Donc vous avez en gros 1800 euros.
C'est ça.
Donc ça vous coûte en gros 2500 euros.
C'est ça, exactement.
Donc c'est 2500 euros qui sont ça des charges patronales.
Exactement.
Donc évidemment, il y a une différence entre d'un côté ça vous coûte 2500 euros charges patronales et la personne touche 1300 euros net. Donc il y a 1200 euros qui partent en charge salariale et en charge patronale.
Voilà.
Bon, et qu'effectivement, comme on paye beaucoup de charges en France, on est le pays qui est le plus taxé, patronal, salarial, il en reste moins dans le porte-monnaie, en l'occurrence, de vos personnels.
Voilà, vos employés. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, la seule, pour moi, je suis confronté à un dilemme parce que j'aimerais, cette année, en fin d'année, j'ai augmenté leur salaire. J'aimerais bien encore les augmenter pour les années qui suivent et pouvoir les fidéliser parce qu'aujourd'hui, une main-d'œuvre qualifié, c'est compliqué à garder au sein d'une entreprise si on n'est pas compétitif au niveau des salaires. Le dilemme que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, moi, si j'augmente le prix de mes devis, eh ben, les devises ne sont plus signées parce que ben, le pouvoir d'achat de mes clients n'a pas augmenté non plus.
Alors, ils sont donc paysagistes, les gens qui travaillent avec vous. C'est-à-dire que vous, vous faites des devis pour des jardins. Quelqu'un qui construit une maison ou qui veut changer son jardin, il vient vers vous et vous lui faites un nouveau jardin. C'est ça votre métier ?
Exactement.
Bon, c'est indiscret de vous demander le chiffre d'affaires que vous faites par an ?
Non, du tout. On a à peu près entre 120 et 150 000 euros de chiffre d'affaires par an.
Donc, effectivement, alors vous avez fait 150 000 euros, donc vous avez dit 2500 euros par personne, donc vous avez 50 000 euros qui partent avec vos deux paysagistes.
C'est ça, à peu près en salaire, oui.
Donc, il reste 70 000 euros dans la caisse, si j'ose dire, de l'entreprise. Et dans ces 70 000 euros, il faut payer faut vous payer vous.
Je me verse quand même un salaire.
Vous versez un salaire, hein, en plus, vous ne prenez pas des dividendes.
Non. Alors, on prend pas de dividendes parce que l'entreprise est encore jeune et je souhaite en fait réinvestir les bénéfices qu'on fait pour l'achat de nouveaux matériels, de nouveaux outillages.
Quand vous prenez un salaire sur ces 70 000 euros, vous payez vous aussi des charges patronales et salariales sur ce salaire.
Exactement. Et l'impôt à la source pour mes deux salariés.
Donc effectivement, et pour vous, vous ne gagnez pas des 1000 et des 100, comme on dit avec ça.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je travaille entre 12 et 14 heures par jour. Et j'ai pas beaucoup plus que mes salariés.
Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Alors, quel âge vous avez, Mathieu ?
J'ai 29 ans.
Bon, c'est vrai que vous commencez. Et c'est déjà pas mal. Vous avez monté votre entreprise, elle fait 150 000 euros de chiffre d'affaires et peut-être va-t-elle se développer dans l'avenir. Si vous êtes performant, si les clients sont contents, on connaît évidemment le système. D'abord, je trouve que c'est une bonne solution que vous faites de prendre son risque, hein, comme dit l'autre. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne solution, la solution que vous avez faite. Parce que si vous avez... Là, vous avez combien de clients aujourd'hui ?
Ah, sur notre carnet de clientèle, on a à peu près une centaine de clients.
Ah oui, donc c'est bien. C'est bien parce qu'après, vous construisez le jardin et puis il y a de l'entretien derrière, peut-être.
Voilà, c'est ça. On a des contrats d'annuels à la.
Ouais, ça, c'est bien.
Contrats d'entretien annuel, etc. Ouais.
Bah écoutez, c'est intéressant, vous voyez, d'avoir un chef d'entreprise, petite entreprise. Vous êtes un patron, mais derrière le mot patron, parfois, il y a tout. Hein, la preuve, il y a des gens qui montent simplement leur entreprise et qui sont en difficulté et qui gagnent parfois moins que leurs salariés. Merci en tout cas. C'était vraiment très, très intéressant, Mathieu,
merci, de
vous
Pascal.
Écouter. Vraiment merci.
Avec plaisir.
Monsieur Boubouk,
je suis ici.
Je vous aurais bien vu dans le jardin. Vous.
Dans le jardin ?
Bah c'est un beau métier.
C'est-à-dire ?
Paysagiste.
Ah, vous ne me voyez pas du tout journaliste, quoi.
Mais
vraiment,
si, mais
on abandonne l'idée.
Mais est-ce que vous êtes l'homme proté ?
Pardon ?
Vous êtes l'homme proté.
C'est qui proté ?
L'homme proté, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois.
Ah,
vous auriez pu faire, vous êtes multiple. L'homme proté.
Je suis pas certain d'être proté.
Si, l'homme proté, vous êtes l'homme proté.
D'accord, bon, allez.
C'est un terme un peu ancien, vous ne connaissiez pas peut-être ?
Non, je ne connaissais pas, parce que 90% des termes que vous utilisez.
Je vous remercie, parce que comme il y a des gens qui nous écoutent, je suis un petit peu inquiet, mais bon.
Bon, allez. Sur nos réseaux sociaux, sur les soins pour les non-vaccinés, Philippe nous dit... Pardon, sur les salaires, Pascal. Philippe nous dit, diminuons les charges patronales afin de laisser les patrons augmenter les salaires. À l'inverse, selon Emeric, les Français n'arrêteront jamais de se plaindre de leur salaire. Il n'y a rien à faire.
Eh bien, c'est tout ?
Bah, c'est tout, oui, Pascal. Oui, on est très pressé. J'en ai noté deux. Et puis, allez.
Heureusement que vous n'êtes pas payé au témoignage. Hein. Il est 13h47. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tissier.
Oui, merci à vous. Il y a 39 ans, le 27 janvier 1983, Louis de Funès quittait.
Louis de Funès est mort. Le comédien a été victime d'un malaise cardiaque hier soir à Nantes. Il avait 68 ans.
Un monstre sacré du cinéma français avec, bien sûr, la série des gendarmes. Des répliques cultes.
Ma biche, je peux tout vous expliquer.
Inutile, je vous ai vu sous mes fenêtres avec cette fille.
C'est une malade.
Vous foutez de moi ?
Et forcément, la grande vadrouille.
Where is Big Moustache?
I don't know. And if you don't know, I don't know, no?
I don't understand.
And if you don't come, I... Ah, merde, alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça, merde, alors? But alors, you are French.
You are not English?
Non.
On n'oublie pas les aventures de Rabbi Jacob.
Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin, mais il n'est pas juif.
Ah, si.
Mais toute votre famille, si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Et bien sûr, Fantomas, la soupe aux choux, l'aile ou la cuisse, le cornio, le grand restaurant. Parlez-nous de Louis de Funès, de votre film préféré au 32-10.
Tellement magnifique. On a écouté ça 12 millions de fois et ça marche encore. On a dépendu mon pendu en Fantomas contre Scotland Yard avec Lord McCrashley. Violette, alors merci d'abord Violette d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Voilà, vraiment, je vous remercie grandement parce que c'est un sujet qui est délicat, qui n'est pas facile à traiter. Et vous appartenez à l'association des personnes de petite taille.
Tout à fait.
Bon, et il y a évidemment ce sujet de Blanche-Neige et les sept nains avec ce remake de Disney. Et effectivement, il n'y aura plus de personnes de petite taille. Je n'aime pas employer le mot nain, même s'il est dans le vocabulaire depuis tant de temps. Elles seront remplacées, ces personnes de petite taille, par des personnes magiques, nous dit-on, des créatures magiques. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de savoir, Violette, si vous trouvez que c'est une bonne chose pour la personne de petite taille que vous êtes.
Alors déjà, j'aimerais juste recontextualiser un petit peu le sujet, parce qu'on voit que sur la toile et sur les réseaux sociaux, c'est quand même, ça fait couler l'encre et tout le monde y va de son avis. C'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, et c'est un peu difficile de vous répondre oui ou non. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, et je pense que je vais l'expliquer assez synthétiquement. C'est-à-dire que, admettons qu'on recrute pour cette fiction des personnes de petite taille pour interpréter les sept nains qu'il y a dans le conte de Blanche-Neige. Moi, ce qui m'inquiéterait ou me questionnerait, c'est d'une part la manière dont ils seront traités dans cette fiction, dans la manière dans laquelle ils seraient mis en avant en termes d'interaction, de prise de vue, de production, et l'impact que ça a ensuite sur l'intégration de la personne de petite taille et des personnes atteintes de nanisme dans la société. Parce qu'il faut quand même pas... Enfin voilà, le nanisme, c'est quand même une cause qui est sérieuse. C'est pas juste une affaire de taille. C'est plus de 500 maladies qui engendrent donc des difficultés médicales qui peuvent être très sévères, et au-delà de ça, qui constituent pour une bonne partie des personnes qui sont concernées un handicap social. Donc si on fait un film qui reprend encore une fois un conte qui est inscrit dans l'histoire, quoi, c'est presque de la propriété intellectuelle, on ne va pas revenir sur cette œuvre, c'est une action qui est un petit peu difficile à suivre proprement et qui n'est pas à l'abri de mauvaises interprétations ou de mauvaises visibilités. On voit bien en France là, les quelques rares fictions qu'on a qui peuvent être Joséphine Angerbien ou encore Savoyard. On voit bien que dans le quotidien, ensuite, ça a des répercussions. Et un film d'envergure, ce sera Blanche-Neige et les Sept Nains, produit par Walt Disney, parce que ça va être un film choral et moyen et qui fera énormément d'entrées au cinéma, ne sera pas sans impact, positif ou négatif, à voir, sur le quotidien ensuite des personnes de petite taille.
Mais ma question, au fond, elle était, pardonnez-moi, même peut-être plus simple que ça. Est-ce que ça vous fait souffrir? Est-ce que ça vous a fait souffrir quand vous étiez enfant et que vous voyez à la télévision, que vous alliez au cinéma et que vous voyez Blanche-Neige et les Sept Nains?
Oui, bien sûr, ça me fait souffrir. Alors, souffrir est un mot qui me... Disons que ça m'agace énormément. Parce que finalement, quoi, c'est-à-dire que les personnes de petite taille aujourd'hui, moi, ce qui me fait souffrir, c'est de voir que les personnes de petite taille, elles sont recrutées dans le cinéma ou qu'elles sont visibles dans l'espace public médiatique seulement pour des fictions de ce type ou qui ne représentent pas du tout l'ordinaire de la vie d'une personne atteinte de nanisme, qui est d'une banalité dans l'absolu si on enlève des problèmes médicaux et sociaux, qui est standard. Donc oui, ça me fait du mal de voir que cette pathologie physique, cette différence physique qui est assez marquante, hein, qui trouble, qui peut déranger un petit peu à première vue quand on n'est pas habitué à regarder cette différence, de voir que cette différence, qui a déjà peu d'espace dans l'espace médiatique, soit mise dans un contexte de fiction ou de situation un peu dégradante, oui, bien sûr. Que ça fait,
et
ça fait
le fait d'être assigné à résidence, souvent, exactement, il me semble que dans la fiction, en fait, on pourrait imaginer qu'une personne de petite taille ait un rôle classique, standard. J'ai envie de dire, exactement. Voilà, standard, qu'il occupe un rôle de, je ne sais pas, de patron de société, de ça, et qu'il ne soit pas assigné à son handicap. Et là, je vous rejoins de ce point de vue-là.
Exactement ça. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, qui m'agace, c'est que ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Je crois que dans les années 2010, il y avait déjà un Blanche-Neige qui allait ressortir par une boîte de prod américaine. Je crois que de mémoire, ils avaient fait des essais visuels pour pas utiliser des personnes de petite taille. Donc le débat est pas nouveau. Mais ce qui m'agace aussi, c'est de l'amalgame qu'il y a entre ces sept noms de Blanche-Neige et les personnes sérieusement atteintes de nanisme et qui sont porteurs de maladies. Enfin, j'ose espérer que les quelques auditeurs ou personnes qui vont voir ces films, qui peuvent éventuellement s'intéresser à cette cause, n'associent pas Minati au nain de Blanche-Neige. Enfin,
j'en suis persuadé. Alors, Violette, ce que je vous propose, c'est de rester avec nous parce qu'il est 13h57 et que notre ami Jean-Alphonse Richard est là pour nous annoncer l'heure du crime. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Pascal.
Le programme, hier c'était le Dépeceur de Mons, oui. Ou c'était avant-hier?
C'était, écoutez, je m'y perds. Non, c'était avant-hier.
Ah, le Dépeceur de Mons
Mais c'est une histoire qui garde tout son mystère.
Je suis d'accord avec vous, mais bon, c'était...
Ah, mais c'est trash.
C'est pas joyeux.
Ah, mais non, mais écoutez, la vie n'est pas toujours joyeuse, hélas. Mais il faut que les enquêtes continuent et que policiers et magistrats se mobilisent pour trouver les coupables. Et d'ailleurs, dans cette affaire, c'est aussi un mystère que je vous propose. Avec cette question, Pascal, je vous la pose.
Oui.
Peut-on se suicider de deux balles, je dis bien de deux balles, et puis avant de mourir, enlever sa chemise ensanglantée, la mettre sous un buffet, puis finalement décider qu'il était temps de décéder et de rendre son dernier souffle?
Ça paraît curieux.
Ça paraît compliqué.
Ça paraît curieux.
Oui, ça paraît baroque, compliqué. Et presque, c'est presque un numéro de contorsionniste. Et pourtant, c'est au cœur de l'affaire Alfred Lindeker. C'est le mari de cette femme, Janine, qui se serait donc suicidée, qui va être évidemment l'éminent suspect dans cette affaire. C'est un ingénieur de chez Michelin, Lindeker. Très précis, très méticuleux. Et on se demande pourquoi il aurait organisé un scénario aussi bâclé d'une scène de crime. Ça va être tout le débat de cette enquête. L'affaire Lindeker dans l'heure du crime.
C'est son vrai nom, Lindeker.
Alfred Lindeker. L-I-N-D-E-C-K-E-R.
Et 13h58, la pause, le flash, et nous retournons avec les auditeurs.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
RTL. Il est 14h01. Flash avec Nathan Bocard.
Un technicien de la police nationale s'est suicidé ce matin. Il s'est jeté du 7e étage de l'hôtel de police de Rennes. Cela porte à 10 le nombre de suicides au sein de la police nationale depuis le 1er janvier. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, réagit à ce nouveau décès au micro RTL d'Alice Moreno.
Il faut rappeler toujours, malgré tout, qu'il y a des solutions qui existent, qu'il faut parler. Mais en tout cas, un ami, un collègue, son délégué, même son chef, s'il faut, faut oser parler. C'est la libération de la parole, de toute façon, qui fera qu'on avancera sur ces sujets-là. Malheureusement, aujourd'hui, on peut le dire que ce n'est pas une culture dans la police nationale, qu'on manque de moyens d'écoute, de soutien, clairement.
Les violences sexuelles en forte hausse, plus 33% en 2021. Un chiffre notamment attribué aux nombreuses déclarations pour des faits anciens. Plus globalement, les indicateurs de la délinquance ont augmenté l'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Plus 12% de victimes de coups et blessures volontaires, plus 14% pour les violences intrafamiliales. On l'apprend à l'instant, l'Académie française perd son doyen. René de Obaldia est mort aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Il était notamment connu pour ses poésies, ses romans, mais aussi ses pièces de théâtre et ses piécettes savamment baptisées Obal Diablerie. Tout de suite, la météo. Et ce temps très nuageux, encore une fois, dans la plupart des régions, même quelques flocons qui pourraient tomber dans le nord-est. L'après-midi, quelques éclaircies reviendront près de la Manche. Le ciel sera plus ensoleillé dans les Pyrénées, les Alpes et le quart sud-est. Les courses s'achèvent à l'instant à Vincennes avec ses résultats provisoires. Il fallait jouer le 11, le 9, le 13, le 3 et le 12. 14 heures passées de 3 minutes sur RTL. On vous retrouve, Pascal Praud, pour les auditeurs. On a la parole.
René de Obaldia, 103 ans, qui est effectivement le doyen des académiciens français. Peut-être aurez-vous envie de rebondir et d'intervenir sur ce sujet. Merci Nathan, il est 14h03.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Merci beaucoup Violette de votre témoignage, parce que c'est tellement... J'ai le sentiment, je ne sais pas quel âge vous avez Violette.
J'ai 30 ans.
Bon, j'ai l'impression que la société, alors même vous, vous avez été dans une société où quand même, c'était sans doute moins rude pour vous. La société était... Pardonnez-moi, je suis enrhumé. Je suis pas enrhumé d'ailleurs, mais j'éternue et je suis tout seul dans le studio. Je rassure évidemment les auditeurs. C'est vrai que, comment dire, vous avez été dans une société qui était plus à l'écoute quand même, en général, du handicap et forcément de celui dont vous avez souffert. Mais il y a 50, 60, 80 ans, c'était parfois encore plus dur, mais il faut du temps, bien sûr, pour que les mentalités changent.
Tout à fait.
Eh ben, je vous remercie vraiment grandement, Violette, de ce témoignage. Vous pouvez peut-être rester avec nous parce que Evelyne nous écoutait. Evelyne qui est retraitée, qui habite Strasbourg et qui voulait intervenir sur ce sujet. Evelyne, vous êtes vous-même une personne de petite taille ?
Oui, c'est ça. Bonjour Pascal, bonjour tous les auditeurs, auditrices.
Bonjour.
Bonjour de Strasbourg.
Bonjour. Pourquoi cette polémique vous fait sourire ?
Oh ben, attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si un jour on va faire un film avec David et Goliath, Goliath ce sera plus non plus un géant, ce sera aussi, je sais pas moi, pas un humain en tout cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est comme tous les autres, on a exactement les mêmes choses aux mêmes endroits. Peut-être même que notre cerveau est un petit peu plus grand. C'est épouvantable. Et pourquoi ne pas donner du travail à des gens de petite taille ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah non, mais ça, c'est un autre sujet. C'est la représentation qui est en cause. On peut considérer que de faire un film qui s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est, d'une certaine manière, insultant et d'assigner à résidence comme cela les nains de Blanche-Neige. Peut-être que ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est ça que je veux dire. La société a évolué et que aujourd'hui, on ne porte pas le même regard que l'on portait en l'occurrence, ces nains-là, c'est les nains de Blanche-Neige qu'il y a 50 ans ou 80 ans. Quand le film est sorti, je crois qu'il est sorti avant la guerre, Blanche-Neige et les Sept Nains.
Vous êtes sûr de tout ça ? Regardez un petit peu autour de vous.
Je suis sûr, je pense qu'aujourd'hui, on va...
Regardez les gens de petite taille. Allez au restaurant, vous êtes peut-être bien, pas moi. Les tables, elles sont trop hautes, les chaises trop basses. Et pour faire très joli, en plus, elles ne sont même pas droites, elles sont généralement... Elles descendent à l'arrière, donc vous avez les fesses plus basses encore.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je peux dire votre âge. Violette disait qu'elle avait 30 ans, vous avez 72 ans.
Oui.
Donc forcément, vous avez une expérience plus longue. Vous n'avez pas le sentiment que la société aujourd'hui a tenté ces dernières années l'inclusion et de prendre en compte la difficulté de tous les handicaps, et notamment celui-ci ?
Allez donc dans un supermarché et essayez donc d'attraper une paire de gants de ménage. Elles sont généralement tout en haut. impossible d'y arriver. Ou alors, vous grimpez dans le rayon. J'ai passé l'âge de ça. Je ne veux pas non plus grimper sur un tabouret si on a un côté. Donc, je demande que quelqu'un m'aide. La première personne qui passe, de préférence grande. Alors, le truc, 3 fois sur 4, surtout quand c'est un mec, il vous jauge d'en haut en bas, d'en bas en haut, de droite à gauche et de gauche à droite. Une fois que cette mise au point est faite, je le regarde droit dans les yeux, je dis, eh oui, les gens de petite taille, ils ont quelques petits soucis que vous, vous n'avez pas.
Alors, eh oui. Ça, c'est la vie quotidienne, mais est-ce que vous avez le sentiment que le regard quand même que porte la société sur vous, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a évolué ?
Je ne suis pas si sûre. Non, je ne pense pas. Parce que si la société avait évolué, regardez la mode. Moi, je suis ravie quand c'est la mode du mini. Je peux enfin m'habiller sans avoir à faire des retouches et des retouches et des retouches. La longueur, elle est à peu près comme je veux. Je n'ai plus... je peux enfin m'acheter un manteau avec des poches taille basse. Parce que quand c'est la mode du maxi, eh ben mes poches, elles sont dans l'ourlet. Pas très pratique, hein.
Evelyne, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Dans quel secteur d'activité étiez-vous ?
J'étais d'abord dans le tertiaire et ensuite je me suis éclatée en étant auxiliaire de vie. Les personnes âgées m'ont beaucoup appris.
Bon, merci Evelyne de votre témoignage. Evelyne et Violette, je vous remercie toutes les deux de témoigner parce que c'est intéressant vraiment d'être confronté à votre réalité et à ce que vous rapportez. À 14h09, on va aller voir Monsieur Boubouk. Monsieur Boubouk qui prépare son week-end.
Ah oui, il est déjà presque tout
Est-ce
fait.
Est-ce que vous repartez pour Bruxelles ?
Est-ce que vous avez retrouvé
un téléphone ?
Oui, j'ai dû en racheter un, Pascal, malheureusement.
Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Shannon ?
J'ai réussi à la trouver sur Instagram.
Est-ce qu'elle vous a répondu ?
Ah oui, on a fait une petite conversation.
C'est une affaire qui commence.
Oui, mais bon, elle est à Bruxelles, moi à Paris, la distance.
Non, vous savez.
Ça me ferait souffrir une relation à distance, Pascal. J'ai un petit cœur.
Oui, mais bon, en même temps, mieux vaut une relation peut-être à distance que pas de relation du tout.
Oui, peut-être, c'est envisageable. Hein,
bon,
comme
et
ça.
Ce week-end, déjà, on a des pistes.
Ah oui, toute la famille Boubouk vient pour le déménagement, pour m'aider à faire les cartons.
Parce que vous déménagez.
Oui, je vous l'ai dit.
Ça fait 3 semaines qu'il nous prévient, Pascal.
Effectivement, mais vous avez beaucoup de cartons.
Quelques-uns.
C'est quoi, vous vivez dans un hôtel particulier ?
Non, pas du tout. Mais bon, voilà, il faut que ça soit présidé par Madame Boubouk mère, c'est normal quand même.
C'est-à-dire que votre famille vient vous aider pour déménager.
Ah oui, on va tout faire.
Tout le monde va dormir chez vous.
Oui, mais je pense, c'est un petit peu ce qui m'embête.
Bon, écoutez, donnez-nous des infos sur Facebook.
Allez, nos réseaux sociaux. Oui. Eric nous écrit, les wokistes et les progressistes vont modifier toute notre société. Evelyne nous dit, je comprends que cette représentation puisse blesser certaines personnes, l'époque a changé. Et Thierry, pour conclure, nous écrit, on va bientôt s'offusquer des gendarmes de Saint-Tropez parce que ça donne une image négative de la corporation.
Non, mais c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est des sujets, je trouve, très, très délicats, parce que je peux comprendre que des gens se sentent insultés, le mot est fort, mais peut-être moqués, stigmatisés à travers une représentation qui ne leur convient pas. Ça peut s'entendre et c'est pour ça que c'est des sujets d'ailleurs qui sont délicats. Et puis en même temps, on peut dire oui, mais c'est de la culture populaire. C'est depuis la nuit des temps. C'est conte. Alors je sais pas si c'est Grimm ou Perrault, Blanche-Neige. Parfois, je mélange les deux auteurs, mais ils existent depuis la nuit des temps. Donc, ces arguments s'entendent aussi. Je vais vérifier pendant la pause si Blanche-Neige c'est Grimm ou Perrault. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est amusant parce que Jean-Luc Mélenchon a déclaré ces dernières heures, je ne veux pas débattre avec les nains de gauche. Et on est au cœur de notre débat là encore. Est-ce que ce mot nain doit être encore utilisé dans notre vocabulaire quotidien ? il l'est parfois d'ailleurs malgré nous, bien évidemment. Je me souviens, et Violette est avec nous, moi, il y a un mot par exemple que je n'utilise plus jamais parce que je sais que ça pouvait choquer les gens. Il m'arrivait, il y a encore quelques années, de dire « il est autiste », par exemple, pour dire de quelqu'un qu'il était complètement renfermé, qu'il n'écoutait pas, etc. Et bien, je me suis rendu compte que ce mot pouvait choquer, en l'occurrence, des auditeurs et des téléspectateurs, et je ne l'emploie plus jamais. De la même manière, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « je ne veux pas parler avec des nains de gauche », bah peut-être que vous, la personne de petite taille, trouvez que ce n'est pas forcément un terme qu'il convient d'utiliser.
Bah, c'est tout à fait le débat. C'est-à-dire que quand on demande et qu'on fustige la dénomination personne de petite taille, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, ok, très bien, appelons un chat un chat, on est des nains, soit parce qu'on est atteint de nanisme. Mais dans l'absolu, dans ce cas-là, vous l'utilisez à bon escient et on ne se permet pas, dans l'espace public, quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, de l'employer à des fins très péjoratives et dégradantes. Puisque moi, je veux bien qu'on dise que je suis naine, mais à côté de ça, ça ne me fait absolument pas rire de savoir qu'un candidat à l'élection présidentielle nous dit dans un contexte électoral qu'il ne veut pas s'entretenir avec ses concurrents de la gauche, quoi, en les appelant des nains. Franchement.
J'entends cela, et pour tout vous dire, évidemment, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, forcément.
Oui, bien sûr.
Et c'est pour ça, Violette, que c'est bien de sensibiliser les uns et les autres à cela. Merci en tout cas vraiment de votre témoignage. Merci beaucoup. À 14h15,
bah,
on va complètement changer de sujet puisque nous allons parler de Louis de Funès qui nous a quittés il y a plus de 39 ans.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors le Glaude, un chicanon. Ça c'est elle. Alors, le Bombay. Formidable, la soupe aux choux, et puis c'est chic, c'est élégant, c'est raffiné la soupe aux choux. Hein. Je vous conseille de voir le film si vous ne l'avez jamais vu. C'est vrai que De Funès, il est dans notre cœur, et ce qui est étonnant, c'est que la magie fonctionne toujours. C'est-à-dire que vous pouvez le voir une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, ça marche. Nous sommes avec Thierry.
Oui.
Thierry, bonjour, vous êtes chauffeur à Angers.
Bonjour Pascal.
Eh bien bonjour et
oui,
merci d'être avec nous.
Je suis chauffeur de taxi à côté d'Angers.
Ah, il y a combien de taxis d'ailleurs à Angers? Il y en a une trentaine, vingtaine?
Je pense qu'il y en a un peu plus.
Un peu plus?
Oui, je pense qu'il y en a un peu plus, mais je ne suis pas tout à fait à Angers, je suis à Chemillé en Anjou.
Ah,
c'est à 25 km.
Bon, voilà, et donc vous n'êtes pas très loin du château de Clermont, qui est entre Angers et Nantes, où vivait Louis de Funès.
Oui, et où il est enterré aussi.
Il est enterré dans le château de Clermont?
Non,
il est enterré
à côté,
dans le cimetière, oui.
À 200 mètres.
Oui, tout à fait.
De sa tombe, d'ailleurs, on aperçoit son château. Voilà.
Donc vous êtes un fan absolu de Funès.
Oui, en fait, alors comme vous le disiez à l'instant, on peut le regarder 10 fois, 20 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Je pense que je dois être à 1 million de fois, moi, et c'est toujours la même chose. Je rigole toujours de la même façon, je connais les dialogues quasiment par cœur. Mais Louis de Funès est surtout lié à mon papa. J'avais un papa qui ne rigolait pas souvent. Le dimanche soir, quand je passais un film sur Louis de Funès, notamment La folie des grandeurs, j'attendais avec impatience de pouvoir voir mon père rigoler. Et donc... Et mon père est décédé depuis déjà un petit moment. Il est mort à 43 ans. J'avais 22 ans. Donc, si vous voulez, Louis de Funès est intimement lié à mon père. Et j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon en 2015. On a très peu discuté avec sa mère sur son prénom à ce premier garçon. On a décidé de l'appeler Louis. Louis en souvenir. En hommage à Louis de Funès. Et il y a encore quelques années, mon petit garçon, quand on lui demandait comment il s'appelait, il répondait Louis de Funès. Voilà. Donc, pour moi, il fera toujours partie de ma vie. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Il fera partie de ces instants de bonheur que j'ai connus avec mon père et que je vais perpétuer avec mes enfants. Il y a Louis, j'ai Arthur aujourd'hui. Donc,
Votre fils s'appelle Louis, hein?
Mon premier garçon, oui, s'appelle Louis. Oui, il a 6 ans.
Qui a un magnifique prénom. On marque une pause et on revient avec vous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Salomon, vous êtes juif. C'était très tendre et très, très beau ce que vous disiez, Thierry. Combien ce Louis de Funès était un point d'ancrage entre votre père et votre fils.
Mais écoutez, moi, à chaque fois qu'un film de Louis de Funès passe à la télévision, je me prépare à manger bien avant pour être bien devant mon poste. Parce qu'effectivement, je sais que je vais passer une bonne soirée. Alors, je suis séparé, mes enfants sont toujours à Paris, avec leur maman, Virginie. Mais c'est vraiment un moment de bonheur. Je repense à mon père. Mmh. Oui, Pascal.
Non, mais ce qui est amusant en plus, c'est que vous les avez sans doute en DVD et vous aimez les voir à la télévision parce que vous savez que d'autres gens, en même temps que vous, sont en train de voir le même spectacle et qu'il y a une forme de partage, même si vous ne voyez pas les gens. C'est ça qui est toujours étrange.
Mais ce qui est incroyable, ce qui est plus incroyable encore, c'est que je les ai effectivement sur, pas forcément en DVD, mais en numérique, mais j'enregistre quand même à la télévision l'émission au cas où le film, au cas où je dois m'absenter ou voilà. C'est juste incroyable.
Vous avez des séquences cultes.
Louis de Funès, ah oui, oui, oui. Louis de Funès qui arrive avec Yves Montand à la cour pour se faire retirer ses décorations. Et quand Louis de Funès, Yves Montand refuse finalement de se présenter devant le roi et la reine, qui lui fait sa séquence avec son chapeau, et que Louis de Funès mime de lui tordre le cou.
Moi, ma bombe, elle va exploser beaucoup plus tard. Et quand ça va exploser, ça va faire boum. Le conte de Garofaro.
Oui, oui, oui.
Moi, j'aime beaucoup les trois premiers quarts d'heure du Grand Restaurant.
Ah oui.
Le reste, après, le film est moins bon. Mais les trois premiers quarts d'heure avec... Il a mangé son radis. Avec Pierre Tornade qui vient lui demander. Il a bien mangé son radis.
Ou quand l'ombre d'une lampe le transforme en éclair.
Donc il y a Fantomas aussi, que j'aime beaucoup, des scènes de Fantomas. On a dépendu mon pendu.
Oui. Bah, écoutez, moi, mes préférés, c'est quand même La Folie des Grandeurs, La Grande Vadrouille et Le Corneau.
Et le gendarme, c'est-à-dire que le personnage du gendarme qui est obséquieux avec l'adjudant Gerbert et insupportable avec les autres. Oui. Je trouve que ce personnage est absolument merveilleux. Merci vraiment, Thierry. Merci.
Oui,
malheureusement.
Si je peux me permettre très vite, puisque mes enfants ne sont pas là, je sais qu'ils m'écoutent. Je t'aime, mon fils, oui. Je t'aime à la folie. Arthur, je t'aime aussi. Et j'aime aussi leur maman, Virginie. Je vous embrasse fort. Et je salue tous les auditeurs aussi qui écoutent votre émission. Et c'est grâce à vous, Pascal, et à la qualité de votre émission que j'écoute RTL dorénavant tous les jours.
Eh bien, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, plus exactement. Et je salue Brigitte également. Brigitte qui voulait intervenir sur Louis de Funès, mais il est hélas trop tard. C'est l'heure du débrief avec Monsieur Tessier. C'était
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Un constat terrible, depuis le début de l'année, 10 policiers ont mis fin à leur jour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier le recrutement d'une vingtaine de psychologues. Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la police nationale ? Fabrice a témoigné.
Une minorité de la hiérarchie est coupable aussi de voir nos collègues qui passent l'arme à gauche. Il y a un manque d'écoute total. Donc ce n'est pas les psychologues qui vont rétablir les choses.
Cédric est lui aussi policier. Il a pointé du doigt un autre problème.
Là, on recrute à tout va des gens qui ne sont pas prêts psychologiquement, physiquement, intellectuellement à rentrer dans la police.
Un autre sujet vous a fait réagir ce midi. L'histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains est-elle rétrograde ? Le remake du dessin animé prévu par Disney mettra à l'écran des créatures magiques et non plus des nains. Bon, vous savez, c'est comme les rois mages, on oublie toujours un. Alors rappelons les noms, Pascal. Bizarrement, l'un d'eux vous fait penser à quelqu'un de l'équipe.
Dormeur, Grincheux.
Ah oui, Grincheux, oui.
Simplet. Prof.
Pourquoi vous me regardez quand vous dites simplet ? Vous avez insisté votre prof. Regard.
Étonnant. Pourquoi, monsieur Boubouk ? Alors rappelons, prof, Hatchoum, Grincheux, timide, simplet, joyeux, et le septième, je sèche. Appelons un ami, Damien Béchiot. Aidez-nous, ami Damien.
Qu'avez-vous dit?
Rêveur.
Ah non, il n'y a pas rêveur. Il n'y a pas un nain qui s'appelle rêveur. Achou, oui, mais il n'y a pas rêveur. Non, mais...
Mais non, pas rêveur, dormeur quand même. À tout part en cacahuète ce midi. Hein. Tiens, où était Amandine Bégaud à 12h30?
Bah écoutez, Amandine, nous la cherchons. Donc, elle entre dans le studio à l'instant.
Elle s'était perdue.
Elle s'était perdue.
Non, elle s'est pas perdue, elle imprime.
Elle travaille, si vous voulez, jusqu'aux derniers instants.
Oui, j'ai l'impression que c'est pas trop votre cas, vous.
Un peu plus tard, Pascal, alors que vous veniez de faire un édito sur la question « Faut-il faire payer les soins aux personnes non vaccinées ?» Olivier, au standard, n'a pas eu l'air de vous comprendre.
Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes commercial, vous habitez Nancy. Je crois que vous n'êtes pas exactement sur ma ligne.
Si, je suis sur votre ligne.
Ah bon ?
Oui.
Bah, je croyais que vous ne vouliez pas soigner.
Non, je croyais que vous parliez de ligne, je croyais de la ligne téléphonique. Moi,
ah oui.
Ah ouais, c'est vraiment loin. Et si vous avez sinon une petite blague à faire ce week-end pour briller au dîner, la voici, c'est cadeau.
Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est journaliste à RTL.
Gonflé, oui.
Et ta maman, elle travaille pas non plus.
Bon. Elle est excellente, celle-là.
Bon, un avis, Louis de Funès, sur cette blague?
C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.
Monsieur Boubouk, sinon tout droit venu d'une autre galaxie et arrivé parmi nous au mois d'août, mérite peut-être un nouveau surnom.
Vous êtes l'homme proté.
Pardon ?
Vous êtes l'homme proté.
C'est qui proté ?
L'homme proté, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois.
Ah,
vous auriez pu faire, vous êtes multiple. L'homme proté.
Vive l'homme proté. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Un programme cet après-midi, Pascal ?
Alors, le Claude ! Un chicanon ! Ça, c'est...
Allez, alors, musique d'ambiance, s'il vous plaît, Damien Béchiot, allons-y.
Je pense que ça doit être une musique de Vladimir Kosma, ça, j'imagine. Mais bon, je n'en suis pas certain, mais ça pourrait l'être en tout cas. Non ?
C'est possible, je ne sais pas. Là, je ne suis pas assez... Oh, c'est facile à vérifier, mais...
Jean-Alphonse Richard arrive à 14h30.
C'est marrant, l'homme proté.
Oui.
L'homme qui peut faire plusieurs choses à la fois.
Oui.
Ça arrive souvent en matière de criminels, vous savez.
Ah bah, oui.
Ils disent la vérité, puis ils ne disent pas la vérité. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'affaire Alfred Lindeker. Suicide ou meurtre ? Suicide de balles, quand même. On en parle tout de suite dans l'heure du crime.